Utopod 023, 15 octobre 2008, épisode spécial auteur américain, en partenariat avec la Maison d'ailleurs et l'association Les Amis de la Maison d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, un petit message aux auditeurs à qui il arrive parfois de recevoir des épisodes incomplets d'Utopod. Rendez-vous sur www.utopod.com à l'article de l'épisode hors série 3 du 6 septembre 2008, où la marche à suivre pour résoudre ce petit problème occasionnel est soigneusement expliquée. C'est simple, rapide et ça fonctionne. J'en arrive à l'épisode d'aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci à Lambda, l'association des Amis de la Maison d'ailleurs, pour son soutien financier. Lambda est une association à but non lucratif dont la vocation est de promouvoir et de faire connaître la Maison d'ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires d'Yverdon-les-Bains. Plus d'infos sur le site www.ailleurs.ch. Aujourd'hui, Utopod vous propose trois courts textes d'auteurs américains. Ce qu'on attend de nous, de Ted Diang, Petit frère TM de Bruce Holland Rogers et Tour d'ivoire de Bruce Sterling. Excepté la nouvelle de Ted Diang, dont une version française a été publiée dans le numéro 7 de la revue française Fiction, ces nouvelles sont inédites en français. Les textes de Ted Diang et de Bruce Sterling ont été traduits par Patrick Marcel. La traduction de la nouvelle de Bruce Holland Rogers est de Lionel Davoust. Plus d'infos à propos des deux traducteurs sur utopod.com. Je ne vous ferai pas l'affront de présenter en détail les trois auteurs américains qu'Utopod vous propose aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de trois géants qui ont marqué leur époque et qui, à eux trois, ont remporté les prix internationaux les plus prestigieux du domaine de la science-fiction littéraire. Pour en savoir plus sur eux, suivez les liens indiqués sur le site. Notre lecteur du jour est l'incontournable Sylvain Demière, homme orchestre bien connu de nos fidèles auditeurs. Et maintenant, cultivez la geek attitude, demandez un libre arbitre pour Noël et place à la littérature.
Ce qu'on attend de nous, de Ted Chiang. Traduction de Patrick Marcel. Ceci est une mise en garde. Je vous demande de la lire avec attention. Vous avez dû voir des prédicteurs désormais. Le temps que vous lisiez ceci, on en aura vendu des millions. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, il s'agit de petits appareils semblables à la télécommande qui ouvre la portière de votre voiture. Ils présentent juste un bouton et un gros voyant vert. La lumière clignote si vous pressez sur le bouton. Plus exactement, la lumière clignote une seconde avant que vous appuyiez sur le bouton. La plupart des gens disent qu'en l'essayant pour la première fois, ils ont l'impression de jouer à un jeu bizarre, où il faut pousser sur le bouton après avoir vu l'éclair, un jeu facile. Mais si vous tentez d'enfreindre les règles, vous vous apercevez que c'est impossible. Si vous essayez d'enfoncer le bouton sans avoir vu la lueur, celle-ci apparaît aussitôt et aussi vite que vous réagissiez, vous ne poussez jamais le bouton avant qu'une seconde se soit écoulée. Si vous attendez la lumière, avec l'intention de ne pas presser le bouton ensuite, la lumière n'apparaît jamais. Quoi qu'on fasse, la lumière précède toujours l'enfoncement du bouton. Il est impossible de prendre un prédicteur en défaut. Le cœur de chaque prédicteur se compose d'un circuit et d'un retardateur négatif. Il émet un signal qui remonte le temps. Toutes les implications de cette technologie apparaîtront par la suite, lorsqu'on obtiendra des délais supérieurs à une seconde. Mais là n'est pas le sujet de cette mise en garde. Le problème immédiat vient de ce que les prédicteurs démontrent que le libre arbitre n'existe pas. Il y a toujours eu des arguments pour prouver que le libre arbitre est une illusion. Certains basés sur la physique théorique, d'autres sur la logique pure. La plupart des gens s'accordent à les trouver irréfutables, mais nul n'en accepte jamais les conclusions. Le sentiment de disposer d'un libre arbitre est trop puissant pour que des arguments le balaient. Il faut une démonstration. Et voilà ce qu'apporte le prédicteur. Typiquement. Les gens jouent avec leur prédicteur plusieurs jours sans pouvoir s'arrêter, en le montrant à leurs amis, en essayant diverses combinaisons pour tromper l'appareil. Ils peuvent donner l'impression de s'en désintéresser, mais personne ne peut oublier sa signification. Au fil des semaines qui suivent, les implications d'un futur immuable s'imposent. Certains, comprenant que leurs choix n'ont aucune importance, refusent désormais d'en effectuer aucun. Comme une légion de Bartleby le scribe, ils n'accomplissent plus d'actes spontanés. À terme, on doit hospitaliser un tiers de ceux qui ont joué avec un prédicteur, car ils refusent de s'alimenter. Ils sombrent dans un mutisme akinétique, un genre de coma éveillé. Ils suivent des yeux les mouvements, changent de position de temps en temps, mais rien de plus. La capacité de se mouvoir subsiste, mais toute motivation a disparu. Avant que les gens commencent à jouer avec des prédicteurs, les rares cas de mutisme akinétique s'observaient à la suite de dégâts dans l'aire antérieure cingulée du cerveau. Maintenant, cet état se propage tel une épidémie de la cognition. Les gens se sont toujours demandé s'il existait une pensée capable de détruire le penseur. Une indicible horreur lovecraftienne ou une phrase à la Gödel qui planterait le système logique humain. Il s'avère que nous avons tous rencontré cette pensée qui anéantit. C'est l'idée que le libre arbitre n'existe pas. Seulement, elle n'avait aucun caractère nocif tant qu'on n'y croyait pas. Les médecins essaient de raisonner les patients pendant que ceux-ci réagissent encore aux conversations. Nous vivions tous des existences heureuses, actives, avant, estime-t-il, et à ce moment-là non plus, nous ne disposions pas du libre arbitre. Pourquoi cela devrait-il changer? Aucun des gestes que vous avez effectués le mois dernier n'était plus librement décidé que ceux que vous effectuez aujourd'hui, explique par exemple un docteur. Vous pouvez continuer à vous comporter de la même façon, et invariablement, les patients répondent « Mais maintenant, je sais. » Et une partie d'entre eux ne disent jamais plus rien. Selon quelques-uns, si le prédicteur cause ce changement de conduite, cela prouve bien que nous possédons un libre arbitre. Un automate ne peut pas perdre courage, n'en a pas la capacité, comme l'a une entité libre. Si un certain nombre, et pas d'autres, bascule dans le mutisme akinétique, cela met précisément en lumière l'importance du choix. Malheureusement, leur raisonnement ne tient pas. Toutes les formes de comportement sont compatibles avec le déterminisme. Un système dynamique peut tomber dans un bassin d'attraction et aboutir à un point fixe, alors qu'un autre suit indéfiniment une trajectoire chaotique. Mais tous les deux restent totalement déterministes. Je vous transmets cet avertissement d'un peu plus d'un an dans votre futur. C'est le premier long message qui vous atteint quand nous commençons à fabriquer des appareils de communication avec des circuits à retard négatif opérant dans la gamme des mégasecondes. D'autres messages suivront, portant sur des problèmes différents. Voici celui que je vous adresse. Agissez comme si vous possédiez un libre arbitre. Il est essentiel que vous vous conduisiez comme si vos décisions importaient, même si vous savez qu'il n'en est rien. La réalité ne compte pas. Seul compte ce que vous croyez, vous. Et croire en ce mensonge est la seule façon d'échapper à un coma éveillé. La civilisation dépend désormais d'une capacité à s'abuser soi-même. Peut-être en a-t-il toujours été ainsi. Et pourtant, je le sais, le libre arbitre étant une illusion, qui sombrera dans le mutisme akinétique et qui y échappera demeure totalement prédéterminé. Personne n'y peut rien changer. Vous ne pouvez pas choisir l'effet que le prédicteur aura sur vous. Certains d'entre vous vont succomber, d'autres pas. Et le message que je vous adresse ne bouleversera en rien ses proportions. Alors, pourquoi l'ai-je fait? Parce que je n'avais pas le choix. Petit frère TM, de Bruce Holland Rogers. Traduction de Lionel Davoust. Cela faisait 3 Noëls de suite que Peter réclamait un petit frère TM. Ses publicités préférées à la télévision étaient celles qui montraient combien il s'amuserait en lui apprenant tout ce que lui-même savait faire. Mais tous les ans, maman disait que Peter n'était pas prêt à recevoir un petit frère TM. Jusqu'à cette année-là. Le matin de Noël, quand Peter courut dans le salon, petit frère TM était là. Assis parmi les cadeaux emballés, il gazouillait des mots de bébé avec un grand sourire heureux et tapotait l'un des paquets d'une petite main grassouillette. Peter était si excité qu'il se jeta au cou de petit frère TM pour lui faire un gros câlin. C'est ainsi qu'il découvrit le bouton. Sa main pressa une chose froide sur la nuque de petit frère TM et, brusquement, celui-ci ne gazouilla plus. Il ne se tenait même plus assis. Petit frère TM s'était effondré mollement par terre, aussi inerte qu'une poupée ordinaire. « Peter !» s'écria maman. « J'ai pas fait exprès !» répondit l'enfant. Maman ramassa petit frère TM, l'assit sur ses genoux et pressa le bouton noir à la base de sa nuque. Son visage reprit vie et se plissa comme s'il allait pleurer. Mais maman le fit sauter sur sa cuisse et lui répéta combien il était un gentil petit garçon. Finalement, il ne pleura pas. « Petit frère TM n'est pas comme tes autres jouets, Peter, » dit maman. « Il faut que tu fasses vraiment très attention à lui, comme à un vrai bébé. » Elle reposa petit frère TM par terre et il s'avança vers Peter de sa démarche maladroite de bambin. « Et si tu le laissais t'aider à ouvrir tes autres cadeaux ?» proposa maman. Ce que fit Peter. Il montra à petit frère TM comment déchirer le papier et ouvrir les paquets. Les autres jouets consistaient en un camion de pompiers, quelques livres parlants, un chariot et tout plein de cubes en bois. Après petit frère TM, le camion de pompiers était la plus chouette des surprises. Il avait des phares, une sirène et des tuyaux qui crachaient du gaz vert, exactement comme les vrais. Maman lui expliqua qu'il n'avait pas autant de cadeaux que l'année précédente parce que petit frère TM avait coûté cher. Ce n'était pas grave. Petit frère TM était le plus génial d'entre eux. Enfin, c'est ce que Peter pensa au début. Au début, tout ce que petit frère TM faisait était drôle et merveilleux. Peter plaça les papiers déchirés dans le chariot que maman lui avait offert et petit frère TM les en ressortit pour les jeter par terre. Peter commença un livre parlant et petit frère TM tourna les pages trop vite pour que le livre puisse suivre. Quand maman partit préparer le petit déjeuner dans la cuisine, Peter voulut montrer au bébé comment construire une tour énorme en cube. Petit frère TM n'avait pas très envie de voir une tour énorme. Chaque fois que Peter empilait quelques cubes, il balayait la tour d'un revers de main et riait. Peter rit aussi. La première fois, et puis la seconde. Après ça, il dit « Maintenant, regarde bien, elle va être super grande !» Mais petit frère TM ne regarda rien. La tour ne mesurait que quelques cubes de haut quand il la renversa. « Non !» s'exclama Peter. Il lui attrapa le bras. « Ne fais pas ça !» Le visage de petit frère TM se plissa. Il allait pleurer. Peter jeta un coup d'œil vers la cuisine et le lâcha. « Ne pleure pas, » dit-il. « Regarde, j'en fais une autre. Regarde-moi la construire. » Petit frère TM le regarda, puis il la fit s'écrouler. Peter eut une idée. Quand maman revint dans le salon, Peter avait construit une tour plus grande que lui, la plus chouette tour qu'il ait jamais faite. « T'as vu ? » s'exclama-t-il. Mais maman n'y accorda même pas un coup d'œil. Elle se contenta de ramasser petit frère TM, l'installa sur ses genoux et le ralluma d'une pression sur le bouton. « Peter !» gronda-t-elle. Dès qu'il fut sous tension, petit frère TM se mit à hurler. Son visage rougit. « J'ai pas fait exprès !» dit Peter. « Je t'avais prévenu !» rétorqua maman. « Il n'est pas comme tes autres jouets. Quand tu l'éteins, il ne peut plus bouger. » Mais il voit et entend toujours. Il ressent toujours des choses et ça lui fait peur. Il renversait mes cubes. C'est ce que font les bébés, répliqua maman. C'est cela, avoir un petit frère. Petit frère TM braillait. Il est à moi, lâcha Peter trop bas pour que maman l'entende. Cependant, quand petit frère TM se fut calmé, elle le reposa par terre et Peter le laissa tituber vers lui pour renverser la tour. Maman dit à Peter de ranger les papiers des cadeaux et retourna dans la cuisine. Il les avait déjà rangés une fois et elle n'avait pas dit merci. Elle n'avait même pas remarqué. Peter chiffonna les emballages en petites boules pleines de colère et les jeta une à une dans le chariot jusqu'à le remplir presque entièrement. C'est à ce moment que petit frère TM brisa le camion de pompiers. Peter se retourna juste à temps pour le voir brandir le véhicule au-dessus de sa tête et le lâcher. « Non !» cria Peter. Le camion tomba par terre et le pare-brise se fracassa, quittant son cadre. Cassé. Peter n'avait même pas joué une seule fois avec, et son plus chouette cadeau de Noël était cassé. Plus tard, quand maman revint dans le salon, elle ne remercia pas Peter d'avoir rangé tous les papiers des cadeaux. Au lieu de cela, elle ramassa petit frère TM et le ralluma une fois de plus. Il trembla et poussa des cris plus stridents que jamais. « Mon Dieu ! Il est éteint depuis combien de temps ?» demanda maman avec autorité. « Je l'aime pas !»« Peter, ça lui fait peur ! Écoute-moi enfin !»« Je le hais, rapporte-le !»« Tu ne dois plus jamais l'éteindre, plus jamais !» « Il est à moi !» s'écria Peter. « Il est à moi et je fais ce que je veux avec. Il a cassé mon camion de pompier. »« C'est un bébé. Il est bête. Je le hais. Rapporte-le !»« Peter, tu vas apprendre à être gentil avec lui. »« Je l'éteindrai si tu le ramènes pas. Je l'éteindrai, je le cacherai, tu le retrouveras jamais. »« Peter !» s'exclama maman. Elle était en colère. Il ne l'avait jamais vue en colère à ce point. Elle posa petit frère TM qui fit un pas vers lui. Elle allait le punir. Mais Peter s'en moquait, il était en colère aussi. « Je le ferai !» hurla-t-il. « Je l'éteindrai, je le cacherai dans le noir !»« Tu n'en feras rien !» rétorqua maman. Elle lui saisit le bras et le retourna. Il allait se prendre une fessée. Mais la fessée n'arriva pas. Au lieu de cela, il la sentit chercher du bout des doigts quelque chose à la base de sa nuque. Tour d'ivoire de Bruce Sterling. Traduction de Patrick Marcel. Nous avions un problème simple, il nous fallait une académie. Mais pas question pour nous de carrière professionnelle dans les sciences conventionnelles. Nous étions 10 000 physiciens autodidactes entièrement formés sur Internet. Franchement, on apprend la physique beaucoup plus facilement que les physiciens ne l'avaient laissé penser. La taille ultime des plus petites particules, l'origine et le devenir de l'univers. Allez, comment ne pas bouillir de curiosité face à de telles questions? Si nous étions réellement civilisés, nous ne parlerions que de ça. Dans ce nouveau monde de libre accès, de bandes passantes ultra larges et de banques de données gigantesques, la physique est là, à portée de main, pour ainsi dire. On dirait un immense mécano intellectuel. Impatients et accros du net, nous avions besoin, nous autres geeks, de trouver un moyen de consacrer chaque instant de veille à notre fringale insatiable de physique. Bien entendu, nous avons demandé à l'État de financer nos recherches, exactement comme les vrais savants. Mais, hélas, les bureaucrates n'avaient pas de temps à nous accorder. Donc, afin de trouver du temps pour la science telle que nous la concevons, nous avons dû abandonner quelques gadgets en route. Par exemple, nous ne nous donnons jamais la peine de publier. Nous nous contentons de poster nos découvertes sur des blogs, et si elles récoltent beaucoup de liens, eh bien, nous figurons dans la catégorie des plus fréquemment cités. Des postes de titulaires? À qui voulez-vous que ça serve? Inconnu au bataillon. Doctorat? Diplôme? Soutenance de thèse? « Connais pas. Pas besoin. Je dirais même plus, rien à cirer. » S'organiser a été un jeu d'enfant. Si vous êtes un génie des maths qui parle malayalam en première langue et s'enthousiasme principalement pour la dualité onde-particule, vous allez attirer l'attention sur le net comme un frelon en train de vrombir au milieu d'une toile d'araignée. Vous êtes un gars sur 1 million, mon vieux. Mais dans un monde de 10 milliards d'individus, nous sommes 10 000. Nous avons tout de suite entrepris d'échanger tout ce que nous savions sur une coopérative de blog. Puisque nous étions pour la plupart indiens et ou chinois, à peu près tout le monde est indien et ou chinois, nous avons établi notre académie des autodidactes sur le grès cuit au soleil des plaines du désert du Rajasthan, pas très loin de l'utopie moghole abandonnée de Fatpur Sikri. Nous étions des rêveurs utopistes, des forcenés du travail, qui tentions de nous forger une existence dans un désert stérile. Un peu comme les Mormons, en gros. Toutefois, c'était les années 2050. Aussi, nous disposions d'une capacité de traitement illimitée, d'une large bande passante, de moteurs de recherche, de logiciels de réseaux sociaux et de tout en open source. Comment aurions-nous pu échouer ? À la base, nous avons repensé l'existence humaine sous la forme d'un problème de bio-ingénierie. Comment charrier assez de nutriments à travers du tissu encéphalique humain pour permettre à la population d'une ville entière de méditer béatement sur les membranes supersymétriques ? Les solutions existaient déjà, dispersées à travers la littérature technique en ligne. Il a suffi de googler le tout et de l'appliquer. Nous tirons notre énergie du soleil, l'eau, de la distillation et du recyclage. Et les dômes et les flèches d'ivoire luisant de notre ashram de physique se composent de sable, de colle et de sciure assemblées par ordinateur. Tout notre équipement de labo provient de déchets. Nos visiteurs sont abasourdis de voir, par exemple, des aspirateurs robotiques reconditionnés et équipés de socs de charrue creuser les 150 km de tunnel de notre accélérateur. Mais pourquoi pas ? Dans les années 2050, les déchets eux-mêmes sont ultra perfectionnés et personne ne sait les réparer. Tout détritus suffisamment avancé est indiscernable de la magie. Notre régime quotidien, qui ne coûte rien, constitue de la bouffe de physiciens parfaitement conçus. Ce sont à la base des eaux usées auxquelles des levures génétiquement modifiées ont restitué leur potentiel bioénergétique. Certains convives n'arrivent pas à apprécier l'élégante simplicité mathématique de cette solution au problème « vieux comme le monde » du repas gratuit. Mais s'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas leur place ici avec nous, de toute façon. Ici, ni argent ni banque. À la place, tous les objets sont repérés par leur marqueur RFID et soumis à un arbitrage de rentabilité bioénergétique, façon eBay, par des logiciels dédiés d'achat et de vente en bourse reconfigurés. En pratique, ça signifie que lorsqu'on a besoin d'un objet neuf, on entasse sur le pas de sa porte tout ce dont on ne veut plus jusqu'à ce que quelqu'un se présente pour vous donner ce dont vous avez besoin. Les économistes qui nous rendent visite s'enfuient en hurlant. Mais entre nous, est-ce que l'économie a jamais vraiment été une science ? Nous sommes d'accord avec Rutherford. En dehors de la physique, tout le reste n'est que philatélie. On aurait pu croire que notre existence monastique de geek ne séduirait pas les femmes. Mais notre académie grouille d'étudiantes. Il y a quelques physiciennes, la proportion habituelle, mais les autres sont poétesses, diplômées de littérature, anthropologues ou spécialistes des gender studies. Ces filles se sont pointées pour dénoncer nos valeurs masculines réductrices et instrumentalisantes. Mais elles ont rapidement constaté que notre refuge convenait à merveille à un enseignement de sensibilisation, à la psychothérapie de groupe et au happening artistique. Et depuis, la proportion de femmes est passée à 3 pour 2 hommes. Ça ne pose aucun problème. Nous ne les embêtons pas avec nos obsessions bizarres, elles ne nous embêtent pas avec les leurs, et tout ce qui peut se passer entre nous après la tombée de la nuit ne regarde personne. Nous vivons ici une expérience magnifique, riche de spiritualité. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Mais par pitié, plus de fans de bombes atomiques. Oui, on sait, la technologie de la bombe atomique est infiniment simple et elle a 1 siècle. N'importe qui, avec un moteur de recherche, une moitié de cerveau et pas mal de temps libre, est capable d'en bricoler une. Mais franchement, à quoi bon ? Nous valons mieux que ça.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tout d'abord, un petit rappel. Utopod est l'invité de l'édition 2008 des Utopiales, festival international de science-fiction qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre prochain à Nantes, en France. Je serai heureux d'y rencontrer une partie de mes auditeurs, alors si vous y êtes, ne soyez pas timide et venez me dire bonjour. Dans les nouvelles pas piquées des hannetons, Utopod a été nominé pour la catégorie spéciale du Grand Prix de l'Imaginaire. Rien que ça. Cela me fait extrêmement plaisir, parce que cela signifie une reconnaissance du podcast par les milieux éditoriaux traditionnels, dont Utopod se veut un simple complément. Les lauréats seront annoncés le samedi 1er novembre aux Utopiales, roulement de tambour. Autre nouvelle, le site actusf.com publiera ces prochains jours une longue interview d'Utopod. Peut-être qu'elle sera déjà disponible au moment où vous écouterez cet épisode, je n'ai pas encore la date exacte, mais je sais que cela se fera de toute façon avant les Utopiales, donc surveillez vos écrans. Je salue également la naissance d'un tout nouveau podcast francophone, lui aussi spécialisé dans les lectures de nouvelles. Il s'agit de Lego, fondé et produit par Arnaud Bourget, désormais un confrère. Vous pouvez vous abonner directement via iTunes ou, si vous voulez d'abord en savoir plus, visitez le site www.lego.tk. Lego s'appelle L-E-G-O-W. Soutenez le projet, abonnez-vous gratuitement. Je passe maintenant à la lecture de quelques mails reçus dernièrement. David écrit... Salut à vous, utopodistes. Il est un peu difficile d'avoir vos nouvelles en entier, mais ça vient peut-être de ma connexion, qui est pour le moins aléatoire. Je vous écoute régulièrement en marchant tranquillement. Absorbé par vos histoires, je dois donner l'effet d'un extraterrestre sur le chemin du boulot. Je travaille et vis depuis un an à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un petit caillou juste en face de Terre-Neuve, d'où je vous envoie mes salutations et mes encouragements. Merci David. Juste pour info, Marc a quitté la production du podcast en avril dernier, donc je suis seul en charge du Topod désormais. Concernant le problème des nouvelles incomplètes, il y a une solution très simple. Je te donne rendez-vous sur www.utopod.com, à l'article de l'épisode hors-série 3 du 6 septembre 2008, où la marche à suivre pour résoudre le problème est soigneusement expliquée. C'est chouette d'avoir des auditeurs issus des quatre coins de la francophonie. En tout cas, je suis fier d'en avoir un à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci encore et à bientôt, David. Claude écrit... Bonjour, j'ai parlé de votre podcast sur le site Les Sentiers de l'Imaginaire et son coordinateur m'en demande plus pour faire une présentation plus étoffée et en parler à la une de son site. Je ne peux malheureusement lui en dire plus que ce que j'en sais, à savoir que j'adore Utopod et qu'il faut que de plus en plus de monde l'écoute. Si donc tu en as le temps et le désir, je te donne ci-dessous l'email de la personne pour que tu puisses lui en dire davantage, en espérant que cela permettra de faire connaître Utopod un peu plus. Voilà, si cela peut aider à la diffusion de ce podcast, j'en serais ravi. J'en profite pour te remercier de ton travail. À plus tard sur les ondes. Merci Claude pour ce message plein d'enthousiasme et pour cette belle possibilité de promotion que tu m'offres. Je vais bien entendu écrire à cette personne et voir avec elle si l'on peut envisager un article ou une interview. À très bientôt. Karine écrit. Bonjour Lucas. Je me décide à répondre à l'appel d'Utopod et à envoyer un petit mail de soutien et de remerciement. Je suis abonné depuis je ne sais combien de temps à Utopod via iTunes, mais en tout cas cela remonte à très longtemps. Je crois que c'était au moment de la diffusion de la nouvelle de Jonas Lehn. Utopod est un excellent compagnon pour les déplacements dans les transports en commun. L'émission démontre une grande qualité tant sur le choix des nouvelles que sur le rendu du son et le professionnalisme des donneurs de voix. Je ne peux plus m'en passer. J'espère qu'Utopod vivra encore longtemps. Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai parlé d'Utopod dans un billet posté sur mon blog et j'ai réussi à intéresser un internaute. La conquête de la toile, internaute par internaute, ça risque de prendre un peu de temps, mais je suis optimiste. Longue vie à Utopod et courage pour la suite. Merci Karine pour ces gentils mots qui me vont droit au cœur et pour le billet posté sur ton blog aussi. Tout comme toi, je suis optimiste quant à l'avenir des nouvelles technologies appliquées à l'édition et à la diffusion littéraire via Internet. Cela prend du temps de changer les mentalités, c'est vrai, mais avec de la patience et un solide esprit de collaboration, nous y arriverons, tu verras. Et merci aussi pour ton appréciation quant à la qualité des émissions. Je fais mon possible pour maintenir la barre assez haut, mais à vrai dire, j'aimerais faire beaucoup plus. Moyennant plus de temps et de financement, cela sera sans doute possible. Sam écrit. Salut à vous et bravo pour cette entreprise courageuse et salutaire. Je suis abonné à votre émission depuis quelques mois et ne le regrette pas. J'ai toujours préféré lire par moi-même plutôt qu'écouter quelqu'un me lire un texte. Mais parfois, cela est agréable lors d'une promenade, d'un déplacement ou lorsqu'on a simplement envie de se reposer les yeux. Les textes de vos auteurs sont de qualité et votre démarche est remarquable. La France s'intéresse malheureusement bien plus au polar qu'aux littératures de l'imaginaire. Mais il y a un public de vrais passionnés, et ceux-là vous seront fidèles. Encore bravo et bonne continuation. Merci Sam. Beaucoup de gens semblent réticents à l'idée qu'on leur lise un texte à voix haute. Les e-books et les podiobooks ont encore du chemin à faire en francophonie. Mais je reste optimiste. Notre cause progresse. Il n'y a qu'à voir le nombre de plus en plus important de livres audio disponibles en librairie. En quelque sorte, c'est le retour au bon vieux feuilleton radiophonique d'antan, et je suis sûr que face à une belle lecture effectuée par un comédien de talent, le plus réfractaire des lecteurs se laisserait séduire. Pour répondre à l'autre partie de votre message, bien que la SF soit mon genre de prédilection, je lis vraiment de tout, et j'avoue notamment adorer le polar. Pour moi, c'est un peu un genre frère, un mauvais genre en quelque sorte, comme dirait François Angélier sur France Culture. Merci encore pour votre message d'encouragement, Sam, et à très bientôt sur les ondes. Eh bien voilà, chers auditeurs, je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de m'écrire à lucas@tutopod.com, L-U-C-A-S. Rendez-vous le 15 novembre prochain pour un texte inédit de Pierre Bordage en personne. Bye bye !